Bonjour. Bonjour et bienvenue dans le mini-mag des stagiaires été. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Rick Astley. Rick Astley, né le 6 février 1966 à Newton-le-Willow, dans le Merseyside, est un chanteur et auteur-compositeur-interprète britannique. Il est mondialement connu pour sa chanson dance-pop « Never Gonna Give You Up », qui obtient un immense succès à sa sortie en 1987. Son deuxième single, « Together Forever », sort en 1988. Rick Astley débute en intégrant un petit groupe local, « Give Way », où il faisait office de batteur, puis devient le chanteur du groupe de Soul FBI en 1984. C'est là que le producteur Peter Waterman le repère. Par la suite, il a publié des albums avec encore plus de succès, y compris en octobre 1987 et Prends-moi dans tes bras en 1988. Il est passé du genre dance-pop à la soul en 1991, après quoi il a sorti un autre album. Free mettant en vedette Elton John, Astley a pris une pause temporaire de la musique et en 1994 et est revenu en 2001 avec un autre album à succès, Keep It Turned On, Gardez-le allumé. Il a suivi avec les plus grands tubes de compilation en 2002. Rick Astley a continué à avoir un énorme impact sur l'industrie musicale britannique et ses autres albums récents incluent Portrait, qui a été publié en 2005, et son album de 2018, étiqueté Belle Vie.
Le musicien anglais à succès a épousé une femme nommée Len Buzager. Len est une productrice danoise, connue pour son travail sur le film 2006, Remise en argent, pour lequel elle a reçu une nomination aux Oscars. Fait intéressant. Elle est la fondatrice de la société de production cinématographique basée à Londres, appelée Film de Vilain Petit Canard. La société a été créée en 2000 et a produit des films remarquables, notamment Le Cassé, La Cohérence, Le Gingembre et Rosa. Cashback, entre autres. Cependant, il reste très secret sur sa vie privée. Selon les tabloïds, Rick et sa belle épouse se sont rencontrés lors de son retour en 1988. À l'époque, Len travaillait comme promotrice pour le label américain RSA. Plus tard, ils ont annoncé leur fiancée. Et en raison d'un emploi du temps chargé, ils ne l'ont jamais fait avant 15 ans. Ils se sont mariés lors d'un mariage secret qui a eu lieu à Londres en 2003. Avant leur mariage, ils ont accueilli leur premier enfant, une fille du nom d'Emily Astley, en 1892. Aujourd'hui âgée d'une vingtaine d'années, leur fille est basée à Copenhague, au Danemark. Elle rend souvent visite à ses parents au Royaume-Uni. Rick et sa famille résident actuellement dans la banlieue londonienne, de Richmond. Et tout de suite, Together Forever. Maintenant, nous allons parler du Rickroll. Le Rickroll est un phénomène internet qui s'est développé autour du clip vidéo de la chanson Never Gonna Give You Up. Il consiste à renvoyer un internaute vers le clip en question, via un lien apparemment en rapport avec le texte qu'il consulte. On dit alors que l'internaute a été rickrollé. En mai 2007, le phénomène a connu un essor important et a été évoqué par plusieurs médias. Le rickroll est dérivé d'une autre blague, le duckroll, qui consistait à mener l'internaute à son issue vers une photo ou une vidéo d'un canard à roulettes. Le but de cette plaisanterie est peut-être d'ajouter une note d'humour ou de faire perdre son temps à la victime. Le tout premier rickroll en date remonte au 29 mars 2007.
Principaux rickrolls. Le site de partage de vidéos YouTube a participé à un canular virtuel le 1er avril 2008, en faisant pointer toutes les vidéos de la page d'accueil vers celle du clip d'Asley. En juillet 2011, c'est la Maison Blanche qui apporte sa pierre à l'édifice en répondant à un commentaire ennuyé de la conférence de presse en cours. Le 7 décembre 2020, sur Twitter, YouTube demande aux internautes les vidéos qu'ils ont regardées en boucle durant l'année 2020. Un imposteur réplique avec une vidéo d'un chien, ce qui s'avère être une vidéo de la chanson Never Gonna Give You Up. C'est la première fois que YouTube se fait rickroller. 1er août 2021, la vidéo originale de Never Gonna Give You Up atteint 1 milliard de vues sur YouTube. Plus tard, Rick Astley dit avoir trouvé ce phénomène hilarant. Le rickroll a été très positif pour lui, car il l'a fait remonter sur les devants de la scène. Pensez-vous que les arbres puissent se faire rickroll? Car le prochain groupe va vous parler des arbres qui nous parlent. Mais avant, Never Gonna Give You Up.
Never gonna give, 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 never gonna give
Bonjour. Aujourd'hui, avec Pauline et moi-même, Emma, nous allons vous raconter le conte du jeune arbre, écrit par Marie-Lyne Ruiz.
C'était l'histoire d'un jeune arbre, une pousse prétendue à devenir un chêne, à 50 ans. Ce jeune arbre faisait partie d'une forêt, constituée de beaucoup d'autres arbres comme lui, où tous vivaient en harmonie. Un jour, que le jeune arbre s'ennuyait, il décida de se retourner sur lui-même pour admirer un autre pan du paysage. Il fut déçu, car au lieu de voir le ruisseau qu'il entendait parfois, il ne vit qu'un amas de pierres. Un chêne à côté de lui vit sa contrariété et en fut intrigué. Il lui demanda
« Que se passe-t-il, jeune arbre? Tu sembles mécontent. »
Le jeune arbre lui répondit
« Oui, ce tas de cailloux me gâche la vue sur ce joli ruisseau que je voulais voir. »
Le jeune chêne répondit
« Ce n'est pas un simple tas de cailloux, mon petit. Ce sont les ruines d'un château fort. J'étais là à sa construction et à ses nombreuses destructions. Voudras-tu connaître son histoire? Je pense que tu trouverais ça plus intéressant que ton joli petit ruisseau. »
Le jeune arbre hocha de la branche, tandis que le vieux chêne agitait ses feuilles, en signe de début de son récit. Tout le bois écoutait, le vieux chêne entama son histoire. Il y a fort fort longtemps, quand le chêne était encore lui aussi une jeune pousse, des hommes s'amenèrent dans la forêt avec la prétention de vouloir construire le plus grand château de tous les temps. Les arbres du bois, suspicieux, restaient à l'affût du moindre danger pour eux. Cette construction titanesque dura environ 4 siècles, du 10e siècle au 14e siècle, et représenta une période douloureuse pour la forêt. Nombre d'arbres furent déracinés, arrachés, coupés au profit de ce chantier. La forêt était hostile à ce projet, et beaucoup d'hommes disparurent mystérieusement durant ces années.
À la fin de cette construction, les arbres meurtris par la perte de leurs congénères tentèrent du mieux qu'ils purent de renflouer et protéger leur forêt tant chérie. Cette paix entre hommes et arbres dura 1 siècle, avant que la terreur ne rebascule à Saint-Mortant.
Au XVIe siècle, le château fort connut un tournant beaucoup moins glorieux. Les hommes s'entre-déchirèrent pour imposer leur religion. Les catholiques étaient extrêmement agressifs envers les protestants. Le nombre de réformés qui s'étaient cachés au sein de la forêt était indénombrable. Il n'y eut aucune accalmie à cette époque-là. Le château était très abîmé, le village médiéval détruit, des congénères arbres ont été souillés du sang des hommes ou brûlés des nombreux feux de forêt. Le vieux chêne en avait vu, il crut de nombreuses fois à sa perte, et chaque fois qu'il évitait les 1000 maux miraculeusement.
C'est à partir de 1563 que Saint-Montant devint une ville réformée et fut proclamée aux yeux des tout protestantes. Une courte période de calme s'annonça pour le bois du vieux chêne. Pendant 7 ans, la ville de Saint-Montant vivait dans la peur des catholiques. Peur qu'ils reviennent pour massacrer d'autres hommes, mais surtout peur pour la forêt encore fragilisée. En 1570, un événement marqua la forêt qui en fut la première spectatrice. Le baron Coligny, homme belliqueux et chef d'une armée protestante, s'embarra du château fort de Saint-Montant. Certes, le village était réformé, mais le statut du château catholique ou protestant n'était pas défini encore clairement. Il n'y eut pas de bain de sang, pas de guerre, juste une grande frayeur pour le bois en face du château et donc aux premières loges de la bataille.
Une fois cet événement passé, les arbres de la forêt n'eurent plus jamais à craindre les représailles entre hommes. Néanmoins, l'histoire n'était pas finie. Au fur et à mesure que les années passèrent, le château fut oublié et inutilisé par les hommes qui l'avaient tant désiré. C'est en 1609 que la forêt, maison du vieux chêne, décréta que ce château était inhabitable. Les arbres se conversèrent avec les arbres des autres forêts pour faire comprendre aux hommes que leur construction tant voulue nécessitait réparation. Mais les hommes n'en firent rien, et le château ne fut plus que ruine. Les arbres, indignés par se laisser aller des hommes qui autrefois avaient tant saccagé la forêt pour cette bâtisse, décidèrent de se venger. Pendant 1 siècle, végétation et animaux pénétrèrent le château et le réduisirent un peu plus encore à un tas de pierres. Tel fut le mauvais sort que la forêt donna à Saint-Montant.
Le vieux chêne se souvenait qu'une année, en 1649, 40 ans après que le château fut oublié, des hommes audacieux se décidèrent à rénover ce pauvre monument. Erreur pour ces hommes, car la forêt n'était pas d'up, et gardait rancune. La malédiction projetée 1/2 siècle avant était toujours présente. Malgré la détermination des hommes, les réparations n'avancèrent point. De nombreux matériaux, outils et instruments disparurent durant cette période et furent retrouvés des siècles après, enterrés au sein des bois. Alors les hommes, désespérés de leur mauvaise fortune, abandonnèrent. Et la végétation reprit lentement son pouvoir sur le château, le détruisit de jour en jour un petit peu plus. En 1789, lors de la Révolution française, Saint-Montant fut pris par les hommes, ainsi que son vieux château fort. Les arbres jusqu'alors en possession de la bâtisse furent contraints de laisser leurs otages. Le château de Saint-Montant servit en premier lieu de rangement pour les exploitations agricoles. Mais la forêt habituée maintenant à posséder le château réduisit les récoltes des hommes à néant. Ne voyant plus d'intérêt à faire pousser des plantes et autres, les hommes firent du château une carrière de pierre. La forêt pouvait détruire les récoltes, mais était inoffensive face aux pierres. Ce fut comme ça que pendant un temps, les hommes gagnèrent face aux arbres, mais il ne fallait pas crier victoire trop vite, car la forêt était éternelle, mais pas les hommes.
Les arbres attendirent très longtemps, ils attendirent 3 siècles. C'est au XXe siècle que la forêt prit sa revanche sur les hommes. Le village de Saint-Montant avait été déserté, était devenu inhabitable et tombé en ruine. Plus personne ne prit la peine de retenter des rénovations. La forêt savoura sa victoire, car, au-delà de détruire le château, lieu qui avait causé tant de souffrances, la forêt détruisait également le village, lieu d'où provenaient les auteurs de ces souffrances. Mais l'histoire n'était pourtant pas finie. La forêt eut la patience de pardonner aux hommes et laissa les réparations se faire. En 1969, les hommes entreprirent la rénovation entière du village de Saint-Montant. Les arbres se montrèrent miséricordieux et n'intervinrent point dans la régénération du village. La forêt arrêta de se montrer hostile face aux habitants, et les habitants admirèrent la revanche de la forêt.
Encore aujourd'hui, de temps en temps, la forêt accueille en son sein écoliers, stagiaires, mais surtout scouts, amis de la nature, à embellir ce village au passé douloureux. Car la cohabitation entre hommes et arbres est possible, mais l'homme ne devra jamais oublier que la forêt lui sera éternellement supérieure. Le vieux chêne termina son récit et le jeune arbre regarda le château. Construction humaine au sein d'un paysage naturel. Oui, le château de Saint-Montant appartient aux hommes, mais irrémédiablement, trônant parmi les arbres, il appartiendra toujours à la forêt.
Notre ami le jeune arbre va maintenant vous donner la météo.
Pour ce jeudi, le ciel s'annonce assez nuageux, notamment cet après-midi, après quelques éclaircies en matinée. Quelques gouttes ne seront pas exclues, ici et là, sous ces nuages. Les températures resteront un peu trop justes pour la saison. Le minimum de température sera de 16 degrés et le maximum de 23 degrés. Vendredi, il fera entre 13 et 26 degrés, avec un ciel nuageux et quelques éclaircies. Samedi, la température se situera entre 13 et 29 degrés et il y aura un grand soleil. Dimanche, il fera jusqu'à 29 degrés et une température minimale de 15 degrés. Attention à ne pas rester sous les arbres car il y aura de l'orage. Lundi, la température sera de 25 degrés avec des températures minimales de 18 degrés, avec un soleil et des résidus de nuages.
Si notre invité qui sera interviewé par le prochain groupe aime se balader en forêt, il préfère courir sur la route.
Are you coming to the Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons interviewer Guy Rossi. Bonjour Guy Rossi. Vous êtes un ultra triathlète et nous allons rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'ultra triathlon pour le bien de l'interview et pour que vous compreniez un peu. Donc c'est une sous-discipline du triathlon qui se pratique sur de très longues distances multiples de celles de l'Ironman. Donc c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42,2 km de course à pied minimum, car l'ultra triathlon regroupe toutes les épreuves consistant à effectuer X fois ces distances. C'est donc une distance d'endurance extrême.
Premièrement, d'où vient votre passion pour le sport et quel sport avez-vous fait ?
Alors, ma passion, elle date d'il y a très longtemps. Vous n'étiez pas né. Je crois que j'ai dû commencer le sport 5 ou 6 ans. Et ça, le goût de l'effort m'a été inculqué par ma maman à Marseille. Comme elle était sportive, j'ai continué dans cette voie-là. Et puis, la philosophie du sport aussi m'a énormément plu. Et j'ai persisté.
Comment faites-vous pour vous motiver lors d'une compétition ?
Ah ben écoute, il y a pas mal de paramètres qui m'aident à me motiver, notamment de savoir que j'ai la famille à côté, les amis, qui me soutiennent, et donc ça me permet d'avoir des ressources insoupçonnées, et comme il y a l'entraînement aussi qui fait énormément, l'entraînement plus la motivation plus le soutien de la famille, on arrive à franchir des montagnes.
Après avoir passé 34 ans à vous surpasser, comment vous vous sentez aujourd'hui ?
Écoute, je me sens très bien. Tu sais pourquoi ? Parce que je me suis jamais surpassé. Et oui, se surpasser, c'est pas ma philosophie. J'ai toujours essayé de faire ça en fonction de mes capacités du moment. Et j'ai toujours respecté mon corps. Et puis, cette philosophie m'a permis de tenir 34 ans. Je crois que si je m'étais surpassé, j'aurais pas duré longtemps.
Et au début, vous faites pas du sport professionnellement, car vous étiez professeur de sport. Et comment avez-vous fait alors pour garder la place du sport dans votre emploi du temps après vos enseignements ?
Alors, j'ai essayé de concilier à la fois la famille, les entraînements et la profession. Et ça n'a pas été facile parce que quand on veut obtenir des résultats, on est obligé de se contraindre, s'imposer une certaine mesure des volumes d'entraînement au niveau de la diététique, tout ça. Ça n'a pas été facile, mais il n'y a rien de facile dans la vie. Tout est simple, mais rien de facile. Donc, je m'entraînais autant qu'un professionnel, mais sans jamais avoir le statut de professionnel. Voilà. Mais quand on veut, on peut toujours.
Exactement. Et c'est-à-dire que c'était des entraînements surtout le soir, après vos cours, et ça peut aller tard aussi ?
Effectivement, ça pouvait être à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Je me souviens d'avoir fait des entraînements jusqu'à 2h du matin et de reprendre à 4h ou 5h du matin parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et quand on se donne des objectifs, on n'a pas trop le choix, et puis il faut y aller, quoi. Il faut aller au charbon quand on peut, et puis voilà, et puis le résultat arrive après.
Donc vous êtes né à Marseille, mais pourquoi avoir migré en Alsace ?
J'ai migré en Alsace parce que j'ai fait une formation de prof de PS, et quand on est fonctionnaire, il faut répondre aux exigences de l'État. Et l'État, il te dit il te nomme n'importe quoi. Ou en France, et on a eu la chance d'être dans l'Est, et puis on ne s'est plus dans l'Est, et donc on est resté là. Mais toutes les années, dès qu'il y avait des vacances scolaires, tout ça, on descendait quand même à Marseille pour retrouver la famille.
Vous avez participé à plusieurs ultra-triathlons en 1993, 1997, 1999 et en 2016 et en 2017, pour un total de 18 podiums à plusieurs DK Iron au Mexique, à Hawaï, avec des distances qui me paraissent folles. 38 km à la nage, 1800 km à vélo, 422 km à pied. J'en oublie peut-être tellement, mais vous avez deux mentions. Êtes-vous le seul ultra-triathlète au monde à avoir réalisé 11 DK? Je pense que c'est une fierté pour vous. Et vous avez pu aider un bon nombre de sportifs?
Oui, ta liste me paraît assez longue. Mais donc, j'ai commencé l'ultra-triathlon en 1988, sans interruption, jusqu'à 2018. Donc, tu as cité des années, mais entre les années, je ne me suis pas arrêté. J'ai toujours continué. Il n'y a pas de surhomme. Il y a une citation que j'aime bien. Il n'y a pas de surhomme, il n'y a que des gens mal entraînés. Donc, si tu es bien entraîné, tu ne peux pas être considéré comme un surhomme. Tout est possible à force de travail. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien cette citation qui va à l'encontre de la vraie, et la vraie qui dit qu'un âne, on ne pourra jamais en faire un cheval. Et moi, je dis qu'au contraire, que d'un âne, on peut toujours en faire devenir un cheval à force de travail. Et voilà, donc le travail, ça paie toujours. Et puis, s'il est bien fait, on peut rester longtemps sur le terrain en se faisant plaisir et en faisant de bonnes performances. Et ta question d'après, c'est si j'aide toujours et toujours gracieusement. Si je peux aider quelqu'un à faire des entraînements corrects, à faire de meilleures performances, je le fais toujours avec plaisir et toujours gracieusement.
Comment avez-vous fait pour gérer la fatigue durant les épreuves de triathlon et d'ultra-triathlon? Quel est votre secret?
Il n'y a pas de secret, c'est le travail. Si tu es préparé avant de faire ta compétition, il n'y a aucun problème pour gérer la fatigue. La fatigue, elle sera moindre que celui qui s'entraîne moins. Donc, je n'ai pas eu l'impression d'avoir géré tellement la fatigue, puisque c'est le résultat d'un travail précédent.
Et c'est surtout sous une certaine forme de constance, d'ailleurs, qu'on réussit à faire du sport. On en parlait tout à l'heure avant. Oui. Et c'est vraiment quand on s'entraîne pour faire ce qu'on a envie de faire et non pas pour tout de suite faire quelque chose juste pour être bien après. C'est vraiment une certaine forme de constance qui vous a fait élever sur des podiums tels que ceux qu'on a cités tout à l'heure.
Effectivement, c'est vrai. C'est la régularité dans l'effort comme dans la vie. C'est-à-dire que je me comporte dans la vie comme je pratique les entraînements. C'est toujours avec régularité. Et jamais de pic et puis après de baisse de rythme. J'essaie toujours de faire les choses d'une façon régulière. Il faut que la courbe elle soit plate ou ascendante, mais jamais en dents de scie. C'est un critère pour arriver à bon terme sans se faire mal.
Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où vous avez préféré faire une compétition?
Non, pas particulièrement. Les souvenirs que j'ai, je ne pourrais pas te citer les pays, mais par contre, là où je me trouvais le mieux, c'est quand ma famille était là, les amis. Et j'ai pu partager de très bons moments, des souvenirs mémorables. Mais non, le pays, les villes, tout ça, c'est plutôt par rapport au moment que j'ai échangé avec ceux que j'aime le plus.
Lors du double ultra-triathlon en Slovénie en 2013, il vous est arrivé un accident. Vous vous êtes retrouvé avec la clavicule cassée, les côtes et le dos touchés, des étirements du muscle de la cuisse. Et qu'est-ce qui vous a permis de reprendre vos sports favoris?
Tout à l'heure, on parlait avant de venir à l'antenne et Lilo me posait la question. Il a plaisanté en disant « Vous avez sauvé un chat ». Il a raison. C'est en voulant éviter un chat que j'ai eu un accident assez grave. Et puis, je me suis refait une santé en essayant d'être sage, de prendre le temps de me ressourcer, de reprendre l'entraînement tranquillement sans essayer d'aller plus vite que la musique. Et ça m'a permis de pouvoir rebondir et de pouvoir continuer les compétitions. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui.
Ça va? Alors, c'est bien.
Et je pense que la motivation a dû être à rude épreuve à ce moment-là, lorsque vous avez subi cet accident.
Ah ben c'est sûr, ça fait un coup au moral, mais je sais qu'on peut rebondir. Et je me souviens d'une petite anecdote qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure. J'ai eu un accident grave en 88, je crois. J'étais en pleine forme, je commençais à faire de très bons résultats et je me suis retrouvé dans le coma, à l'hôpital, inconscient pendant plusieurs jours. Et après, je suis revenu à la maison. Et puis, tous les amis triathlètes qui étaient avec moi le jour de l'accident sont venus m'apporter des bouquins de golf en se disant, ça y est, c'est fini pour lui. Et les bouquins de golf, finalement, je ne les ai jamais ouverts parce que à l'intérieur de moi, je me disais que ce n'était pas possible de s'arrêter si tôt et que j'allais pouvoir un jour rebondir. Et j'ai rebondi, j'ai recommencé à marcher dans l'eau, j'ai recommencé à faire des gestes de natation. Petit à petit, ça a pris du temps. Et puis après, j'ai eu la carrière que vous avez évoquée tout à l'heure.
Pour revenir à l'accident par rapport au chat, vous êtes tombé en faisant un salto, vous m'avez dit avant, mais vous avez continué 20 km.
Ah oui, oui, j'ai fait vraiment un salto et pourtant je ne fais pas de gymnastique, mais et j'ai horreur de ça. Je me souviens en cours de gym, tu vois, en cours de gym, on me disait de faire des saltos. J'ai dit non, je suis désolé, ça ne me plaît pas. Et tu vois, involontairement, j'ai fait un salto avec le vélo. Je me suis relevé, j'ai regardé si le vélo était encore en état de continuer. Et puis j'ai continué les 20 km et puis voilà quoi. Mais j'ai pas pu continuer après en course à pied parce que j'avais trop mal au dos, j'arrivais plus à marcher et puis c'est la vie.
Est-ce que vos enfants font aussi du sport ?
Ils en ont fait. Ils ont eu une filière sportive au lycée, au collège, à l'université. Mon fils a fait quelques compétitions de, par exemple, le double Ironman aux États-Unis et une fois en Équateur. On a passé de très bons moments, mais bon, après, ben, la vie a voulu qu'ils aient d'autres occupations, d'autres loisirs, et puis ils ont laissé tomber la compétition, mais ils pratiquent toujours pour eux des activités physiques.
Quelle a été votre plus belle expérience en tant qu'athlète ?
La plus belle expérience en tant qu'athlète, c'est le jubilé, parce que ça m'a permis de conclure 34 ans de triathlon sans être blessé et de pouvoir se dire que je vais pouvoir continuer à me mouvoir comme si rien n'était.
Et si vous deviez choisir entre faire un triathlon là maintenant ou un ultra triathlon, lequel choisirez-vous et pourquoi ?
Ni l'un ni l'autre. Je suis trop bien dans ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire une activité tous les jours avec mon épouse ou mes enfants quand ils sont là à Colmar. On va faire une balade, quelles que soient les conditions climatiques, la neige, la pluie, le froid, le vent et la chaleur, évidemment. J'avais oublié de le signaler tout à l'heure et on se fait plaisir tous les jours.
Est-ce que vous continuez à faire du sport maintenant ?
Oui, tous les jours. Là, cet après-midi, je vais partir au moins 2 heures à vélo avec mon épouse. Et puis voilà, et puis on se sent bien, notre rythme. Et puis en fonction des capacités qu'on a, sans aller au-delà, pour essayer de durer le plus longtemps possible sans se faire mal.
Alors, nous, on avait une petite surprise, bon, qu'on a déjà dit un peu tout à l'heure, mais j'aimerais avoir une question. Pourquoi vous aimez une musique en particulier, La Ballade des gens heureux, de Gérard Lenormand ? Pourquoi en particulier celle-là ?
Parce que ça correspond à ma philosophie.
Oui, et c'est vrai que bon, les paroles parlent d'elles-mêmes, de toute façon. On estime que c'est ça. On entendra d'ailleurs tout à l'heure passer. Et donc voilà.
Oui.
J'avais une dernière question. Pourquoi s'être lancé dans le sport ?
Pourquoi ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à 6 ans, ça m'a plu. Le goût de l'effort, ça m'a plu. Il a été inculqué par ma maman, ma sœur et on a toujours vécu comme ça dans le milieu sportif. Je me souviens d'avoir fait des tournois de volley avec ma maman et ma sœur. On s'est fait plaisir et puis voilà. Et puis après, je suis parti de Marseille, j'ai fait un autre sport, etc. Quoi. Mais le goût de l'effort est toujours là. même après ma retraite sportive, le goût de l'effort reste toujours présent.
Bah, merci Guy Rossi d'avoir répondu présent à notre interview et merci d'être venu. Nous rediffusons cette émission demain à 7h30 et nous retrouverons en direct demain à midi pour le dernier mini-mag des stagiaires de l'animation été. À demain sur RDL 103.5.
Et moi, je vous remercie de m'avoir invité parce que c'est un honneur pour moi, en tant que vieux crouton, d'être toujours là pour faire plaisir aux jeunes. Et c'est un honneur aussi pour moi. Alors merci à Lilo, Sarah, Sonia et Thibaut.
Merci à vous, c'était un
plaisir.
Merci. Tout de suite, la balade des gens heureux de Gérard Lenormand.
Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut, tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux.